le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Radio FM Plus et vous écoutez Amnesty International. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Agnès et Geoffroy d'Alternativa. Bonjour.
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 Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre association? Qu'est-ce que vous faites, Alternativa? Et puis, depuis combien de temps ça existe? Surtout, qu'est-ce qui a motivé la création de cette association au niveau national, hein? Elle est nationale, votre association?
Oui.
Donc Alternativa ANV COP21, c'est un mouvement qui existe depuis 2013, qui existe sur toute la France et même en au-delà de ça, puisqu'en tout, il y a plus de 130 groupes locaux, essentiellement dans l'Hexagone, mais aussi en Haïti ou en République démocratique du Congo.
Encore. Ah oui, d'accord. Donc
ouais.
C'est même au-delà du continent.
Hein. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Et à Montpellier, on est l'un de ces groupes locaux, effectivement, depuis plusieurs années maintenant. L'objectif, vraiment l'enjeu et la raison d'être d'Alternativa ANV COP21, c'est la question de l'urgence climatique et sociale. Depuis le début, c'est vraiment sa raison d'être. Et en fait, c'est un mouvement qui œuvre et qui agit pour lutter contre le dérèglement climatique. D'une part, par la promotion des alternatives qui peuvent exister à ces dérèglements climatiques, et d'autre part par la résistance aux projets qu'on dit climaticides, c'est-à-dire à tous les projets qui vont dans le sens inverse de ce qu'il faudrait faire pour que le climat soit préservé.
D'accord, donc d'où le nom Alternativa ANV COP21, c'est Action non violente COP21,
c'est ça ? Oui, tout à fait.
Donc, voilà, on a vraiment les alternatives et la résistance.
Exactement, ce sont D'accord. les deux jambes du mouvement, comme on les appelle. Effectivement, c'est découpé en deux, il y a deux noms pour ça.
Mm-hmm. Et ça fait combien de temps que vous existez Ça a été créé quand, cette association ?
Le mouvement a été créé en 2013. On aime bien utiliser le mot mouvement plutôt qu'association, parce que c'est vraiment un mouvement citoyen qui ne demande pas forcément d'adhérer. En fait, on peut être militant Alternativa ANV COP21 simplement en s'engageant dans l'une des actions. Et donc, il a été créé en 2013, à l'origine au Pays Basque. Voilà, aujourd'hui, c'est ses racines historiques, mais c'est vrai que c'est le premier endroit où ont été organisés des grands villages des alternatives, qui est une des spécialités du mouvement depuis longtemps.
D'accord, donc vous proposez lors de ces villages des alternatives pour n'importe quel citoyen, citoyenne, avoir d'autres façons de vivre au quotidien ?
Tout à fait.
C'est ça, c'est des alternatives qui existent déjà, qui sont déjà présentes autour de nous, au niveau local, au niveau national. On se rejoint, Alternativa et ANV, sous une phrase qu'on a l'habitude de dire, c'est « changeons le système et pas le climat ». Et dans « changeons le système », c'est le système actuel, le système capitalistique, le système productiviste qui est basé toujours sur une surconsommation et sur l'épuisement des ressources naturelles et sur une croissance infinie. Et dans ce changer le système, ce en quoi on croit, c'est toutes ces alternatives qui existent déjà et dont on veut faire la promotion, dont on veut aider à se massifier à notre échelle avec plein d'autres collectifs qui existent, bien sûr. Et ce sont des alternatives qui sont présentes dans tous les domaines, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'énergie avec Enercoop par exemple, qui est un fournisseur d'énergie, un vrai fournisseur d'énergie renouvelable, que ce soit dans la finance par exemple aussi avec la NEF. Voilà, donc il y a plein d'alternatives qui existent et Alternativa aime en faire la promotion au maximum.
D'accord, donc on n'est pas juste sur de l'alternative du quotidien, genre il faut éteindre la lumière et éteindre l'eau quand on se brosse
tests.
Les dents. C'est vraiment des gros changements finalement au quotidien que vous proposez.
Oui, alors qu'on propose, c'est pas nous qui les proposons, hein, c'est pas Alternativa qui les propose, on essaie juste d'en faire la promotion. Mmh. Ces petits gestes au quotidien qu'on parfois tourne un peu en dérision, mais ils sont vraiment vraiment essentiels. Enfin, à titre personnel, je le crois vraiment. Mais l'échelle suivante, c'est le mouvement collectif. C'est de se rassembler entre citoyens pour essayer d'aller lutter contre des projets un peu plus importants qui peuvent arriver qui nous tombent dessus au niveau local, au niveau national, et ça tout seul dans notre coin c'est parfois plus difficile, donc voilà, c'est vraiment une complémentarité voilà, de se rassembler à plusieurs pour aller lutter contre les projets climaticides qui peuvent arriver.
D'accord, donc vous diriez que votre rôle, du coup, ça va être de promouvoir ces alternatives, mais aussi du coup de résister contre des projets. Est-ce que vous avez des exemples de projets contre lesquels vous auriez pu résister ou que vous allez résister dans l'avenir?
Ouais, on en a. Si on parle en plus de ce qui se passe localement, parce que bien sûr au niveau national, enfin je pense que c'est intéressant de parler de ce qu'on fait peut-être au niveau du groupe local.
Oui, on est sur une radio montpelliéraine.
C'est ça. Parler de ce qu'on fait et puis surtout des projets sur lesquels les gens peuvent nous rejoindre, parce que vraiment, on est complètement ouvert. Au contraire, on a besoin d'être de plus en plus nombreux et nombreuses pour agir sur ces actions-là. Donc ben, je sais pas, tu veux peut-être parler de l'aéroport?
Ouais, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est une lutte que l'on mène avec Alternatiba, mais pas seul. On est avec les amis de Greenpeace, on est avec les amis d'Extinction Rébellion, et d'autres collectifs aussi, j'en oubliais, pardon à eux, mais c'est un combat qu'il faut mener. L'aéroport de Montpellier a pour projet, enfin, a initié il y a quelque temps un projet d'extension du trafic aérien, d'extension de sa propre activité, et c'est juste en fait une bombe climatique et sanitaire, parce que quand on sait que je crois que c'est 7% de l'empreinte carbone est représentée par l'aérien
en France,
oui. Quand on sait que pour respecter les accords de Paris sur le climat qui date de 2015, il faudrait réduire par deux le trafic aérien et que Montpellier veut passer de 2 à 3,5 millions de passagers par an à court terme. En fait, c'est juste c'est juste aberrant et ça va.
Ah oui, parce que là, ça va être un petit trajet. En fait, c'est Montpellier-Paris.
C'est ça. Donc voilà, ça fait partie de ce projet-là.
On peut faire ça en train.
Exactement. Et c'est exactement ça. Vous avez le point. C'est que cette navette entre Montpellier et Paris. Elle est accrue complètement. Il y a plusieurs vols par jour, et alors qu'on peut faire ça en train pour moins de 3h30, et quand on sait aussi que le train pollue 40 fois moins que l'avion. Alors les chiffres dépendent de ce qu'on prend en compte dedans, mais les chiffres les plus bas en faveur du train montrent que c'est 40 fois moins. Donc en fait c'est une aberration. Et quand on voit la métropole ou la CCI faire des campagnes de publicité pour promouvoir ces vols pour Paris à moindre coût parce que les subventions sont mises sur l'aérien pour justement promouvoir ce trafic, on trouve juste ça complètement anormal et c'est une de nos revendications quoi.
Et du coup concrètement, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ce projet-là?
Eh ben on a eu au mois de décembre ou janvier une action, on a organisé une action dans l'aéroport de Montpellier, on a fait un dying où on était alors il y a plusieurs associations, on était une trentaine ou une quarantaine, j'ai plus les chiffres, une trentaine de citoyens qui nous ont rejoints pour aller faire une opération. C'était le jour du lancement de cette navette. Et on est en discussion avec l'aéroport pour mettre un terme à cette navette. C'est vraiment nos revendications, quoi.
Mm-hmm. Puis pendant la campagne de promotion, parce que au moment où ils ont fait cette campagne de promotion pour cette navette Paris-Montpellier, ils ont vraiment mis le paquet et certainement beaucoup d'argent pour faire tout un tas de promotions à travers les commerces, un jeu concours, un concert organisé spécialement pour ça, et puis toute une caravane qui balayait tous les marchés, les centres commerciaux du département. Et nous, on est allé les voir en fait, et on a fait un stand, on a tenu des stands à chaque fois à côté de leur caravane promotionnelle pour informer les gens de ce qui se passait en fait et de cette aberration.
La réalité en fait de ce projet-là.
Ouais, exactement. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait tous les gens à qui on a parlé, on allait vers eux, hein, c'était pas forcément eux qui venaient vers nous, comprenaient complètement l'absurdité de la proposition. Mais ce qui est ressorti très souvent, c'est qu'ils disaient mais oui, mais le problème c'est que le train est cher par rapport à l'avion. Et clairement, nous c'est quelque chose qu'on dénonce. L'idée, c'est que justement les subventions, le jeu des subventions permettent de favoriser le rail plutôt que l'air en fait, et favoriser les mobilités qui soient moins émettrices de gaz à effet de serre, clairement. Pour qu'il y ait une accessibilité du train au plus grand nombre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, clairement. Quoi.
Oui, évidemment, là, les subventions sont placées au mauvais endroit. En tout cas, pour le climat, c'est pas...
C'est très clair.
D'accord. Et vous avez d'autres actions comme ça que vous avez gagnées, des combats que vous auriez portés et qui ont porté leurs fruits vraiment?
Alors, dans les combats gagnés récemment, on a évidemment la lutte, enfin je dis évidemment parce qu'elle a été assez médiatisée, contre l'implantation d'Amazon à Fournès, pas très loin de chez nous, dans le Gard, à deux pas du pont du Gard. Là, en tant que Alternative à NVCOP 21, on faisait partie d'un collectif hein, qui réunissait des acteurs, enfin des gens du coin déjà, des habitants, habitantes de ce secteur, et puis d'autres mouvements. Et on a longtemps lutté, ça pendant 3 ans, contre ce projet-là. Et c'était donc vraiment une grosse satisfaction d'arriver à ce que, effectivement, Amazon, enfin déjà avoir une première victoire judiciaire. Puis le retrait définitif d'Amazon de ce projet-là sur ce secteur-là. Ce qui ne veut pas dire qu'Amazon ne va pas chercher à s'implanter par ailleurs. On est vigilant là-dessus. Mais en tout cas, clairement, ce ne sera pas à Fournaise.
D'accord. Ouais, il faut toujours garder l'œil. Mais en tout cas, là, c'est définitif. Ils ne vont pas du tout s'implanter, c'est sûr.
Ils ont annoncé très clairement qu'ils se retiraient du projet.
D'accord. Donc ça marche, les actions d'Alternativa.
Oui, ça marche.
Bien
ça
sûr
marche.
Que ça marche. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, vous êtes en ce moment aussi sur la zone du lien. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de l'action qui se fait à cet endroit-là, parce que c'est pas loin d'ici non plus.
Ouais, c'est juste à côté. C'est une catastrophe écologique ce lien et effectivement, alors là c'est plus une revendication, une action auprès de laquelle on vient en soutien d'un collectif qui est existant, qui lutte contre ce lien depuis le début. C'est le SOS Oulala qui fait un travail énorme. Et d'ailleurs, j'ai une pensée pour les copains et les copines du SOS Oulala. Et du coup, Alternativa est plutôt en soutien de ce mouvement. Et il y a tout plein d'autres associations, collectifs, comme Greenpeace qui sont là aussi, Extinction Rebellion et plein d'autres, qui mènent ça. Le lien, c'est quoi? Le dernier tronçon du lien, c'est un petit bout de route de 8 km qui est au nord de Montpellier, qui est pas encore créé. Et qui va permettre de rejoindre l'A9, de relier l'A9 à l'A750. Donc c'est 20 000 arbres qui vont être détruits, c'est presque 140 espèces protégées qui vont voir leur habitat naturel détruit, donc avec un gros risque d'extinction aussi, alors qu'on sait que la biodiversité est tellement en danger un peu partout. Donc c'est ça, c'est 100 millions d'argent public qui est dépensé par le département pour ce projet et voilà, donc l'idée du lien, c'est de bétoniser cette route, de créer cette dernière portion de route pour relier la 9 à la 750. Et oui, on est dessus plus que jamais. Il y a toute une série d'actions qui est en cours de préparation. Évidemment, on peut pas tout dire aujourd'hui ou annoncer ce qui va arriver parce que il y a encore de la préparation. Mais effectivement, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un projet qui devrait être pris à bras-le-corps par tous les Montpelliérains, tous les gens de la métropole et alentour, parce que c'est une catastrophe écologique, quoi. C'est juste une porte ouverte à d'autres bétonisations autour du lien, parce qu'on n'a jamais vu un périphérique sans zone d'activité qui se crée autour.
Ça va être très très étendu.
Voilà, ça va s'étendre. Au début, pour l'instant, c'est juste un bout de route qui est annoncé, mais on sait très bien que ce sera la recrudescence du transport par camion, etc. Et faut vraiment s'en alarmer.
Et le tout avec un projet qui inclut pas du tout de développement des transports en commun ou des pistes cyclables. C'est un projet pur de route. Uniquement.
D'accord, donc c'est voiture-camion. J'imagine que de toute façon, les justifications de tels travaux, ça va être le fait qu'on pourra circuler plus facilement.
C'est effectivement le message qui est transmis, parce qu'on ce qu'on répond à ça, c'est que les études sont hyper claires sur le sujet, c'est que plus on fait de route, plus on crée de trafic, plus on crée de trafic, plus on crée de route, et qu'il y a un moment où c'est un cercle vicieux, et il y a un moment où il faut rompre le cercle vicieux, et la seule façon de le faire, c'est d'arrêter de faire des routes. Tout simplement, et de développer les mobilités douces autant que possible, les transports en commun, qui en plus sont socialement plus acceptables, puisque voilà, les gens les plus précaires ont plus de facilité à prendre des transports en commun qu'une propre voiture individuelle.
C'est sûr qu'après 100 millions d'argent public, on peut mettre ça dans des bus, hein, c'est pas...
Ouais, ou dans des pistes cyclables aussi, parce que plusieurs demandes ont été faites auprès du département et les réponses étaient à chaque fois, alors sur ces dernières années, les réponses étaient à chaque fois, les budgets sont éteints, les budgets sont serrés ou les budgets sont coupés. pour créer des pistes cyclables, alors que là, parfois ils sont méga ouverts pour d'autres projets. Et c'est un projet d'un autre temps. Il avait peut-être un sens dans les années 80 quand on n'était pas au courant de tout ce qui se passait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est plus et encore.
On faisait comme si.
Ouais, on faisait comme si. C'est vrai, ouais. Et voilà. Mais aujourd'hui, on peut pas laisser passer ça. Et c'est pour ça que tous ces collectifs, dont Alternatiba NV, se mobilisent autour de plein d'actions passées et à venir sur ce sujet. Ouais.
Alors, il me semble que sur la zone du lien, il y avait eu des violences à un moment donné, une intervention de police qui avait relativement mal tourné. Vous avez quelque chose à dire là-dessus ?
Qui avait mal tourné, je sais pas. Il y avait une ZAD qui était en place. Donc une ZAD, c'est une zone à défendre. Et c'était juste des gens qui étaient venus de toute la France, des hommes, des femmes, qui étaient venus pour défendre ce lieu. Donc avec la mise en place de cabanes, avec des matériaux recyclés, des matériaux provenant de l'emplacement. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés encerclés par des hélicoptères et par des voitures de gendarmerie qui sont venues les déloger. Donc il n'y a pas eu de violence outre mesure, je crois pas à ma connaissance, j'ai pas le souvenir, mais voilà, c'était pas une action de violence qui avait été travaillée, mise en place, ça aurait pu, même si c'est pas du tout la même violence, c'est vraiment quelque chose qui est revendiqué et qui est soutenu par Alternatiba et ANV. Mais voilà, pas de violence à ma connaissance, si ce n'est juste une ZAD qui a été délogée.
C'est jamais très agréable comme action, mais de subir ce genre d'intervention policière, c'est jamais très très agréable. Alors du coup, bon, vous participez à cette ZAD du lien, vous les soutenez et on espère que ça va fonctionner. D'ailleurs, si vous nous écoutez, vous pouvez vous rendre sur les lieux directement pour soutenir tous les acteurs et les actrices qui sont présents et présentes sur le site. Cela dit, est-ce que vous pouvez nous dire de façon plus générale quels sont les problèmes qui sont identifiés par Alternatiba, les problèmes autant environnementaux que sociaux? Vous parliez dans les prospectus d'Alternatiba, on voit souvent justice climatique, justice sociale. Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre la justice climatique et la justice sociale, justement?
Mais en fait, ce qui est clair comme constat, c'est que c'est le constat du dérèglement climatique. Donc quand on parle de dérèglement climatique, on parle de hausse des températures globales à l'échelle de la planète. Ça, c'est un mouvement qui est irréversible aujourd'hui. Mais on parle aussi de phénomènes climatiques exceptionnels et extrêmes, comme des ouragans, comme des inondations suite à des pluies très fortes, comme la sécheresse. Tous ces phénomènes qu'on observe à l'échelle de la planète, mais qu'on observe aussi chez nous, et ils sont récurrents. Et plus personne aujourd'hui peut nier qu'il y a un dérèglement climatique. Tout le monde le constate quand on voit qu'on a 20 degrés au mois de décembre.
D'ailleurs, en parlant de sécheresse, je parlais il n'y a pas longtemps sur cette radio de la sécheresse à Madagascar. C'est absolument terrible ce qui est en train de se passer. Donc je rappelle que vous pouvez toujours signer notre pétition sur Amnesty International. .fr pour aider les populations là-bas à obtenir des subventions et des aides de la part de la communauté internationale. C'est vraiment très très important. Donc on voit vraiment à l'international qu'il y a un vrai problème de justice sociale par rapport au dérèglement climatique, parce que ça touche généralement les populations les plus précaires.
Tout à fait.
Est-ce qu'on voit ça aussi en France? Est-ce que vous voyez ça en France aussi, le fait que ça touche pas de la même manière les populations précaires, le dérèglement climatique?
On le constate, mais ça, c'est une chose. Mais d'autre part, ce qu'on peut dire aussi, ce qui est important pour notre mouvement, c'est que l'écologie qu'on prône, c'est pas l'écologie des riches, c'est pas celle qui va exiger des personnes qui vivent dans les situations les plus précaires de faire des efforts. C'est pas à elles qu'on va demander absolument d'avoir des investissements, par exemple, je sais pas, de manger bio. On sait bien qu'aujourd'hui, manger bio, ça coûte un peu plus cher que de manger normal. Bien sûr, on aimerait qu'elle mange bio. C'est ça qu'on essaie de défendre, la nourriture bio dans les cantines collectives, à l'école, etc. Mais c'est pas elle qu'on va demander de porter ces efforts-là individuels, parce qu'on sait bien qu'elle n'est pas dans une situation où elle peut se le permettre. Donc l'idée, c'est d'être juste par rapport aux efforts qui sont à faire. Et l'idée, c'est de ne pas responsabiliser les citoyens et les citoyennes, mais de bien faire porter sa responsabilité à ceux qui nous gouvernent, et aux entreprises aussi qui font des choix et qui nous imposent en fait la surconsommation à travers la publicité extrême pour surproduire davantage. Et c'est là qu'en fait il y a un vrai levier d'action.
Donc il y a une vraie responsabilité politique à prendre. Vous, aujourd'hui, quelles sont les responsabilités politiques que vous voudriez que notre gouvernement prenne ? D'ailleurs, il y a les élections là bientôt qui vont arriver. Quels sont les points majeurs qu'il faudrait mettre en place pour avoir une vraie politique pour l'environnement aujourd'hui en France ?
Pour répondre à ça, il y a des gens qui ont travaillé pendant des mois, qui ont été réunis, qui ont étudié tous ces sujets, qui ont rencontré tout un tas d'experts sur toutes ces questions liées au changement climatique. Et il s'appelait la Convention citoyenne pour le climat. Ils ont été missionnés par le chef d'État lui-même à l'époque pour justement faire des propositions claires, basées sur des constats scientifiques, de ce qui pouvait être fait et de comment le gouvernement pouvait agir pour aller dans le sens de cette justice climatique et sociale. Voilà, les préconisations, elles sont là, elles sont accessibles à tous. En plus, c'est des choses qui sont assez abordables et faciles à comprendre. Ça parle de thèmes qu'on a parlé là, ça parle de transport, ça parle on a parlé de pollution lumineuse, enfin, on n'en a pas parlé encore, mais ça parle de numérique, ça parle de tout un tas de sujets différents de nos vies. Et toutes ces préconisations, l'objectif, c'était qu'elles soient écoutées, entendues, qu'elles soient transformées en loi française. Et en fait, tout ça a juste permis d'accoucher d'une loi complètement...
Édulcoré.
C'est complètement insuffisant.
Et
surtout que toutes ces propositions ne venaient pas de mouvements forcément écologiques, elles venaient juste du peuple. Les 150 personnes étaient tous de milieux très différents. Et donc la force de ces propositions était d'autant plus respectable, louable et à respecter après. Donc, ce qu'on devrait demander en priorité, c'est le respect de tout ce qui a été travaillé à ce moment-là, quoi.
Oui, tout simplement, oui. Mais du coup, est-ce que vous avez des exemples de propositions qui ont été faites à ce moment-là, ou alors des propositions d'Alternativa sur le transport? Vous avez parlé aussi de la pollution. Les voitures. Tu parlais de la pollution lumineuse. Quoi la pollution lumineuse ?
La pollution lumineuse, c'est le fait que l'éclairage public, ou bien l'éclairage des enseignes, des commerces, ou l'éclairage des publicités, par exemple, sont autant de sources de lumière qui, en fait, sont nocives, mais à plein de niveaux différents. On parle d'écologie, mais on parle aussi de santé. Parce que clairement, avoir un éclairage en ville qui est continu ou qui dure très tard le soir et qui se rallume très tôt le matin crée aussi des troubles au niveau du sommeil, donc des troubles de santé. Ouais. Mais c'est aussi un impact très fort sur la biodiversité. Ça trouble complètement les rythmes de vie, notamment des oiseaux qui vivent sur le secteur. Et puis, bien sûr, c'est de la consommation d'énergie parfaitement inutile quand on voit qu'il y a des publicités ou des enseignes de commerce qui sont ouvertes, qui sont allumées. Selon la loi nationale, jusqu'à 1h du matin, à quoi ça sert, en fait, tout simplement. Et clairement, il y a des tas de communes où il y a des choses qui sont mises en place pour les faire éteindre plus tôt. Alors, à Montpellier, c'est 23h. Seulement, on voit que c'est des lois qui sont souvent pas appliquées. Il n'y a pas de contrôle de ça. Il n'y a pas de sanctions suffisamment sévères pour que les entreprises, les commerçants, etc. éteignent. Bien sûr, certains le font, hein, mais pas tous.
Et ça vaut aussi pour les panneaux publicitaires, ça ? À 23h, c'est censé être éteint ?
Exactement. C'est censé être éteint à 23h et on peut faire le tour. On l'a fait. Nous, on est partis. Ça, c'est une des actions qu'on a faites. C'est pas le cas. On l'a fait après 23h, une nuit, là, à l'automne. On est partis faire le tour dans le centre-ville des panneaux publicitaires lumineux, aussi des enseignes de commerce. On a éteint les enseignes de commerce, mais sans aucune dégradation. Il suffit d'éteindre l'interrupteur.
Oui, il y a un petit interrupteur juste à côté des enseignes avec un petit bâton.
Exactement. D'ailleurs, on a vu tous ceux qui le souhaitent à le faire. Hein. C'est aussi simple que ça. On coupe la lumière et après, ils peuvent la rallumer le lendemain. On leur a d'ailleurs laissé un courrier pour leur expliquer en fait pourquoi on le faisait. Et puis simplement les alerter sur simplement peut-être la consommation... L'économie d'énergie qu'ils feraient, hein, simplement s'ils mettaient en place un système pour éteindre leur enseigne un peu plus tôt. Et puis, on a recouvert de blanc de meudon, donc c'est un produit qui est normalement fait pour nettoyer, donc c'est parfaitement sans impact. On a recouvert de blanc de meudon les panneaux publicitaires lumineux.
D'accord.
Qui restaient allumés alors qu'ils n'auraient pas dû. panneaux publicitaires lumineux, mais aussi des panneaux publicitaires numériques. Ça, c'est pire que tout. C'est-à-dire que
ça consomme énormément d'électricité. C'est horrible.
Tout à fait. C'est des choses qui devraient être juste interdites. Aujourd'hui, ça devrait absolument pas exister.
Et pourtant, on continue à en mettre des nouveaux.
Alors, de plus en plus, quand même, de plus en plus de grandes villes et de grandes métropoles limitent, parce qu'on se rend compte que l'intérêt, on est toujours dans une politique de surconsommation et d'inciter les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas forcément besoin. Et du coup, ça rejoint tout à l'heure à ce qu'on disait dans notre phrase qui est « changeons le système, pas le climat ». C'est ce système-là qu'on veut changer, ce système aussi de publicité partout, tout le temps, à toutes les heures, sans répit, sans repos, qu'on appelle à diminuer. Et c'est une de nos revendications, notamment sur ce sujet-là, c'est l'arrêt de ces concessions des panneaux publicitaires avec les grands afficheurs. C'est en cours. Il y a des discussions aussi.
Il y a des discussions au niveau de Montpellier pour diminuer justement.
Au niveau de la métropole.
Émissions publicitaires là.
Oui, c'est au niveau de la métropole donc il y a la loi qui est nationale, mais il y a aussi chaque métropole, chaque municipalité ou métropole qui peut avoir un texte plus restrictif. C'est le cas à Montpellier, c'est le cas pour la métropole de Montpellier. Ça s'appelle le RLPI et constamment on met la pression sur les politiques pour justement aller plus loin dans cette extinction d'éclairage la nuit et dans les panneaux publicitaires.
Il y a des choses qui sont faites, mais elles sont encore clairement insuffisantes. Et en fait, on est dans une situation d'urgence. C'est ça qu'on ne cesse de rappeler. En fait, on sait qu'on a 10 ans aujourd'hui pour changer les choses. 10 ans pour espérer que le réchauffement climatique ne soit pas, n'atteigne pas des seuils qui font qu'il serait... on serait vraiment dans des situations complètement catastrophiques et invivables, exactement. Et on sait que chaque dixième de degré compte. Donc chaque action qu'on peut faire pour limiter, en fait, ou freiner ce réchauffement global est importante et compte. Et peut vraiment changer les choses à l'échelle planétaire, encore une fois, mais aussi localement. Donc il y a urgence, quoi. On peut plus se permettre de pondre des textes qui seront en application seulement dans 3 ans ou 10 ans.
Non, effectivement, 10 ans, c'est très très court. À l'échelle politique, c'est encore plus court.
Oui.
Donc là, effectivement, il faut que notre gouvernement prenne ses responsabilités et c'est aussi à nous de faire en sorte qu'il les prenne. En tout cas, je vous remercie d'être venu sur cette radio. Comment est-ce qu'on peut vous retrouver? Comment est-ce qu'on peut vous contacter?
Oui, très bonne question. Alors déjà, si vous voulez nous rejoindre, si vous vous intéressez à ce qu'on vient de dire, si vous avez envie de nous rencontrer, on fait une réunion d'accueil des nouveaux et nouvelles, enfin des personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait. Elle aura lieu le mercredi 9 février de 19h à 21h à la salle Galago, qui se trouve à 2 pas de la gare, 14 rue Durand.
Oui.
Et puis, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On a des comptes, Alternatiba ANVCOP21 Montpellier. Vous pouvez nous retrouver sur Internet également, vous abonner à notre newsletter pour être informé de tout ce qu'on fait.
Et voilà. Et moi, je voudrais revenir sur cette réunion du 9 février qui est méga importante. Moi, j'ai rejoint le mouvement il y a 1 an, donc je suis pas militant de longue date. Je ne suis pas un climatologue, je ne suis pas un chercheur, je suis juste un citoyen qui a envie de faire partie à notre échelle, de ceux qui font changer les choses. Et ce que je veux dire, c'est que venez, n'hésitez pas. Moi, je suis arrivé il y a 1 an et je connaissais personne. Et très vite, on rentre dans ce milieu et très vite, on est bien accueilli. Et on n'a pas besoin d'avoir des heures et des heures de temps disponible pour rejoindre un mouvement. On peut juste apporter selon notre emploi du temps.
Oui, c'est le principe du bénévolat. D'ailleurs, chez Amnesty, c'est pareil. C'est vraiment selon ses envies, selon ses moyens, selon ses capacités. Et puis, c'est au moment où on est motivé, on y va. Et puis,
ça fluctue toujours. On a des périodes où on peut s'impliquer un peu plus que d'autres. Et c'est pas grave. Donc venez, rejoignez Amnesty International, rejoignez Alternatiba, ANVCOP21, ou rejoignez n'importe quel autre collectif qui lutte contre le changement climatique, le dérèglement climatique, ou qui lutte pour une plus grande justice sociale et une solidarité internationale.
Eh bien, on espère vous retrouver bientôt, alors.
Avec plaisir.
Agnès, est-ce que tu veux le mot de la fin? Une action peut-être que vous allez faire dans pas longtemps?
Un appel. Je voudrais un appel. En fait, on est en train de chercher un local qui soit notre base, qui soit un lieu qui soit ouvert à tous et toutes, avec un bar, avec des événements conviviaux sympas, des concerts, etc., mais aussi qui permettent de faire des réunions, des préparations d'actions, préparer des banderoles, des ateliers, des formations. Enfin, on a plein d'idées, plein de projets. Et du coup, on recherche un lieu pour ça, à Montpellier, centre de préférence. On a besoin de 150-200 mètres carrés. On n'est pas difficile, quoi. On veut juste de la place et ensuite, tout le monde sera bienvenu. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui vend, qui loue, ce genre de local, on est preneur.
Eh ben super, j'espère que quelqu'un vous contactera ou que vous allez trouver très rapidement. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et
merci.
À bientôt sur Radio FM+.
Merci.